RFI, grand reportage.
Sonia Ghezali.
Cet été, RFI vous propose la rediffusion de nos meilleurs grands reportages. Aujourd'hui, nous partons à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Une frontière que traversent aussi bien des Syriens qui fuient la guerre que des combattants djihadistes qui partent affronter l'armée de Bachar al-Assad. Nicolas Falaise s'était rendu sur place il y a quelques mois au moment où cette frontière résonnait aussi des échos d'une autre guerre, celle que mènent plusieurs groupes rebelles contre le plus radical d'entre eux, l'État islamique en Irak et au Levant, le IIL qui a récemment mené de fortes offensives en Irak et qui porte désormais le nom d'État islamique. Et direction donc la frontière turco-syrienne avec Nicolas Falaise.
Antakya, Turquie, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière syrienne. Nous sommes en centre-ville, tout près des ruelles du marché. Et certains magasins sont de véritables supermarchés du vêtement militaire. Il y a des pantalons et des vestes de camouflage ou de couleur kaki, des gilets à poches pour les munitions, aussi du matériel comme des lunettes de visée. Pas d'armes, mais apparemment de quoi équiper des combattants.
Dans l'un de ces magasins, nous rencontrons Abu Salim, un commerçant turc qui s'exprime en arabe comme beaucoup d'habitants de cette région frontalière. Quinquagénaire moustachu, Abu Salim nous assure que les pantalons kaki, les vestes de camouflage, les couteaux de toute taille, les tokiwoki et les jumelles qu'il vend sont exclusivement destinés à l'armée turque. Mais lorsqu'on lui demande si la guerre en Syrie a mené d'autres clients dans sa boutique, voici ce qu'il répond.
Il y a des gens barbus qui viennent, vous savez. Ils viennent de Syrie, de Turquie, d'Amérique. Je ne sais pas. Je ne leur demande pas leur papier d'identité. Je ne fais que vendre. Si un âne vient acheter quelque chose, je lui vends. Si un être humain vient m'acheter quelque chose, je lui vends. Tu veux acheter ma chemise ? Je te la vends. Je vends à tout le monde.
Abu Salim refuse de nous en dire davantage à propos de ses nouveaux clients barbus et assez rapidement, il nous indique que l'entretien est terminé. Derrière leurs impressionnants étalages d'équipements militaires, la plupart des commerçants spécialisés refuseront de nous répondre. Les Turcs appellent cette ville Hatay, les Arabes Antakya, et dans l'Antiquité, elle se nommait Antioche. Proche de la frontière syrienne, elle est aujourd'hui considérée comme l'un des points de ralliement des djihadistes étrangers qui viennent se battre en Syrie contre l'armée de Bachar el-Assad. Lorsque nous rencontrons Malek, ce jeune Syrien s'apprête à passer la frontière pour rejoindre son groupe armé. Sur son téléphone portable, il nous montre des vidéos tournées au combat. Ancien étudiant en droit, Malek se bat au sein de l'armée de Mohammed, un groupe islamiste composé de Syriens et d'étrangers, des Libyens, des Égyptiens et quelques Européens, nous dit le jeune homme, qui nous parle notamment d'un de ses camarades français.
Sa femme porte le niqab et en France, l'islam est combattu. Ça lui pose problème. Il a entendu dire qu'ici on se bat pour fonder un État islamique et il a préféré venir ici plutôt que de rester chez les infidèles.
Silhouette imposante, mais voix douce, Malek porte une barbe taillée selon les critères salafistes, sans pilosité au-dessus de la lèvre supérieure. Sur son compte Facebook, il nous montre la photo d'un homme jeune coiffé d'un bonnet, encore un Français, tué au combat l'été dernier en Syrie.
Le djihad, c'est renoncer au bonheur terrestre. Par exemple, il est préférable pour quelqu'un qui vit en Europe de renoncer à sa richesse pour venir ici avec femme et enfants et vivre dans cette région où la religion est en train de se répandre. C'est mieux pour lui que de rester dans des pays dirigés par des chrétiens. Du moment où il y a un État islamique quelque part, c'est une obligation pour le musulman de quitter ses terres infidèles. Si en chemin cet homme vient à mourir, il est considéré comme martyr. Et s'il arrive à destination, comme ici en Syrie, il aura accompli une bonne action. Il aura tout sacrifié pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour l'établissement de l'État islamique et pour l'application de la charia.
L'armée de Mohammed, le groupe auquel appartient Malek, est installée dans la région d'Azaz, dans le nord de la Syrie. Islamiste et djihadiste, Malek tient pourtant à prendre ses distances avec le plus radical et le plus violent des groupes armés syriens, l'État islamique en Irak et au Levant, que tout le monde ici appelle par ses initiales arabes, Daesh.
Vous avez vu les erreurs commises par l'État islamique en Irak et au Levant, à Azaz. C'est parce qu'ils n'appliquent pas la charia. Ils tuent les gens, ils entrent chez eux par la force. Ils ne connaissent pas la religion. Lorsque tu leur parles, ils te disent « vous avez tort et nous avons raison ». C'est la preuve qu'ils n'ont aucune connaissance religieuse. Avec leur méthode, ils ne représentent pas l'islam.
Depuis la fin décembre 2013, une guerre dans la guerre se déroule en Syrie, où la plupart des groupes armés d'opposition se battent contre l'État islamique en Irak et au Levant. Malek est visiblement embarrassé lorsqu'on lui demande quelle est la position de son groupe armé dans cette lutte interne à la rébellion.
Neutralité. L'ennemi principal, c'est Bachar el-Assad.
L'État islamique en Irak et au Levant et le comportement de ses combattants dans le nord de la Syrie, c'est l'un des principaux sujets de conversation ici, de l'autre côté de la frontière, dans le sud de la Turquie, où l'on croise des membres de différentes factions rebelles syriennes, ainsi que des réfugiés syriens. Ils sont déjà 1 million en Turquie.
Yeah, my name is Anwar Mohammed. I'm activist and media.
Je m'appelle Anwar Mohammed, je suis activiste et aussi traducteur pour des journalistes. Avant la révolution, j'étais étudiant, je suis originaire d'Azaz, une ville située au nord d'Alep, près de la frontière turque, et maintenant je vis en Turquie, ça fait environ 5 mois.
And I am live now in Turkey since about 5 months ago.
Anwar, vous avez approché de près l'État islamique en Irak et au Levant.
They kidnapped me from my house and they put me as a prisoner or as a hostage in a prison in Aleppo for 1 month.
Ils m'ont kidnappé chez moi et m'ont retenu prisonnier ou otage à Alep pendant 1 mois. Ils pensent que nous sommes des espions. Ils croient que notre travail sert surtout pour du renseignement, journalistes, caméramen. Ils pensent que nous prenons des images de bâtiments, des bases et que nous les vendons aux services de renseignement.
Comment se sont-ils comportés avec vous pendant votre détention ?
They are torturing all of the people and I was one of them.
Ils torturent tout le monde, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Ils torturent de plein de façons différentes, avec de l'électricité, ou en accrochant les prisonniers au plafond, ou en les frappant. Je me suis retrouvé seul dans une pièce et 4 ou 5 personnes, je ne me souviens plus, sont arrivées et ont commencé à me frapper tous ensemble.
Savez-vous pourquoi vous avez finalement été libéré?
No, they didn't release me. It was me who escaped from the prison.
Non, ils ne m'ont pas libéré. C'est moi qui me suis évadé. Ils m'ont condamné à mort. Ils voulaient me couper la tête. C'est ce qu'ils font généralement. J'ai décidé de fuir, de m'échapper par la fenêtre. J'ai attendu le bon moment pour écarter les battants de la fenêtre et je me suis sauvé. C'était dur ensuite de faire le voyage jusqu'à chez moi, à environ 40 km de la prison.
40 km from my home.
Qui sont les membres de l'État islamique en Irak et au Levant, surtout des Syriens, surtout des combattants djihadistes étrangers? Avez-vous pu comprendre comment fonctionnait cette organisation?
Mainly they are not Syrian, Iraqis, Tunisian, Saoudiens.
C'est surtout des étrangers, des Irakiens, des Tunisiens, des Saoudiens, des Tchétchènes, mais ils emploient des Syriens, pas pour les activités militaires, mais pour les tâches sécuritaires. Dans chaque ville, ils surveillent les gens, ils les kidnappent et les jettent en prison.
Kidnapping them and taking them to prison. Yes.
Vous êtes un révolutionnaire du début du soulèvement en Syrie, un militant journaliste, un citoyen journaliste, comme on dit. Est-ce que vous avez l'impression que des groupes aussi radicaux que l'État islamique en Irak et au Levant nuisent à l'esprit de la révolution?
We see some people, they say they are working or they are related to the regime, and some they are saying that they have their own.
Certains disent que ce groupe est en fait lié au régime, d'autres disent qu'il a sa propre idéologie, son propre agenda, qui consiste à établir un État islamique. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous devons poursuivre notre révolution, reconstruire notre pays, conquérir notre liberté. Ces gens-là ne peuvent pas rester en Syrie. Les Syriens n'acceptent pas les phénomènes comme l'État islamique en Irak et au Levant. Ils ne peuvent pas tolérer ces gens stupides.
They cannot accept these idiots people.
Antakya, Reyhanlı, Kilis, Gaziantep, les villes turques proches de la frontière ont par endroits des airs de petite Syrie, avec leurs restaurants syriens et leurs cafés où les exilés se retrouvent autour d'un narguilé. On y croise des combattants, des réfugiés, mais aussi des Syriens qui font de fréquents allers-retours en Turquie pour des raisons personnelles ou professionnelles. Aref vit à Alep, il vient de passer la frontière pour envoyer un colis aux États-Unis. Il s'apprête à rentrer chez lui en Syrie, où il a observé ces derniers mois le comportement des hommes de l'État islamique en Irak et au Levant.
Ils ont commencé à agir comme s'ils étaient un État et leur mentalité n'est pas compatible avec celle des Syriens. Jour après jour, ça a mis les gens en colère. Ils ont commencé à s'immiscer dans tout ce qui concerne la société. Ils ne se limitent pas au djihad. Ils ont beaucoup de checkpoints dans les villages. Ils vous contrôlent, vous interrogent. Pourquoi vous rasez votre barbe? Pourquoi votre femme ou votre sœur ou votre mère n'a pas la tête couverte? Voilà, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ce qui a conduit la population à les rejeter. Un jour, je marchais avec ma femme, nous sommes arrivés à leur checkpoint, ils m'ont interdit de traverser la rue devant leur quartier général, ils m'ont dit « Ta femme n'est pas couverte, tu ne peux pas traverser ici ». Ça m'a mis très en colère, je veux dire, je suis un musulman sunnite, je n'ai de problème avec aucun musulman, sauf avec cette mentalité radicale tellement étroite d'esprit. Ce n'est acceptable dans aucun pays. Alors cette fois, j'ai traversé la rue, je lui ai dit « Tu ne peux pas me l'interdire » et j'ai traversé.
« I will cross, you cannot forbid me ». People died for freedom, for their dignity. This is our revolution.
Les gens meurent pour la liberté, pour leur dignité, c'est ça notre révolution. On dirait que les Syriens sont passés d'une dictature individuelle à la dictature de différents groupes, des groupes qui ont une idéologie qu'ils veulent appliquer, ils veulent forcer les gens à faire ce qui est juste selon eux. C'est impossible de discuter avec eux.
And you cannot talk with that.
Dans le nord de la Syrie, le régime de Bachar el-Assad continue de bombarder Alep. Son armée affronte les groupes armés et certains de ces groupes armés se battent donc entre eux. Nous sommes dans les bureaux de Médecins du Monde, près de la frontière syrienne. Ici, on est confronté au quotidien à cette situation dangereuse et évolutive, invivable pour la population et qui rend extrêmement difficile le travail des humanitaires. Roland Guénaud est coordinateur pour Médecins du Monde. Il travaille avec une centaine de professionnels syriens sur le terrain.
Sur la crise, c'est les Syriens qui font tout, hein, 99% du boulot. Hein, et c'est eux qui prennent 99% des risques aussi. Hein. L'impact psychologique de la crise, nous on le voit clairement sur notre personnel aussi. Donc déjà, les gens ne veulent pas prendre de vacances, hein, ils veulent continuer, ils travaillent. Ils ont tout perdu, ils sont avec des gens qui ont tout perdu. Ils ont la peur constante de recevoir des bombes, d'être kidnappés, enfin de retrouver leur famille en morceaux, etc. Et clairement, enfin, nous là, il y a un mois, on a eu un infirmier qui est devenu fou. Et clairement, nos équipes ont identifié ce risque depuis des mois et des mois, et on le ressent énormément. Ils vivent avec un stress et une situation qui est complètement inhumaine. Ils restent extrêmement engagés pour aider leur propre peuple, hein. Mais ils sont dans une situation psychologique qui est extrêmement destructrice sur le moyen terme.
Turquie, Syrie, la frontière du djihad. Reportage Nicolas Falaise, réalisation Marc Minatel.
C'était un reportage de Nicolas Falaise. Retrouvez tout au long de l'été les artistes en playlist RFI aujourd'hui. Marina Pi, qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs, avec le titre « I wish I were that girl », extrait de l'album « Reggae Love Soul ».